Voilà, Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu nous aimes et parce que tu marches avec nous. Et nous pouvons déclarer ensemble combien tu es bon. Et j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tous ceux qui soutiennent cette église financièrement. Merci pour cette offrande que nous pouvons te donner. Seigneur, merci pour l'offrande qui est faite généreusement dans les deux boîtes sur la table. Et nous voulons te les remettre aussi, te demander que cet argent soit aussi tout à ta gloire et que tu puisses vraiment glorifier ton nom au travers de nos offrandes. Merci Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, c'est à moi de partager la parole de Dieu avec vous. Lorsque j'étais en Suisse, une dame a fait un rapport. Elle travaille parmi les infirmières qui travaillent dans le monde. Et elle était à une grande conférence en Afrique du Sud. Et elle nous a partagé quelque chose sur Daniel qui est resté sur mon cœur. Et je pensais simplement ce matin retransmettre un peu ce que je reçois au travers de ces messages, de ce message de Daniel, qui est un très beau livre. En fait, Daniel, c'est quelque chose qu'on étudie souvent dans les écoles du dimanche, dans les clubs bibliques, parce que c'est le triomphe du lion. Daniel, c'est le triomphe de quelqu'un qui a été face à face avec un lion et qui n'est pas mort. C'est trois hommes qui sont allés dans une fournaise et qui ne sont pas morts, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et donc je vais partager simplement mon cœur sur ces quelques passages de Daniel et j'espère que vous serez enrichis, encouragés et bénis par la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais juste commencer par lire un des premiers passages de Daniel dans chapitre 1, versets 1 à 7. On ne va pas lire beaucoup plus parce qu'il y aura beaucoup de versets qui seront donnés après coup. Donc la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur le livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meka, et à Azaria, celui d'Abednego. Bon, je ne sais pas si je dis les noms très correctement en hébreu, mais bon, je fais de mon mieux. Voilà, dans ce premier passage, on voit vraiment que Daniel était quelqu'un de formidable, qui avait de l'instruction, de l'intelligence, qui était bien dans son pays. Et il était avec des amis qui étaient de belle apparence corporelle, c'était des gens vraiment bien. Mais malheureusement, ils ont été déportés à Babylone. Et ils se trouvent vraiment dans un contexte complètement différent du leur, où ils doivent se soumettre. Ils ne sont plus libres, ils sont esclaves. Et ils doivent commencer par se soumettre à une nouvelle loi, une nouvelle règle, à un nouveau dieu, à des nouveaux dieux, parce qu'il y avait plusieurs dieux, je suppose, dans ces pays-là. Il y avait des attirances à des choses qui n'étaient pas du tout dans leur contexte actuel. Mais c'était vraiment des gens qui étaient choisis par Dieu. D'un côté, Dieu les avait créés de belle apparence. C'était des gens qui avaient vraiment quelque chose à offrir et à donner. Mais voilà que pendant trois ans, ils ont dû être formés. Ils ont dû être... Et ça m'a fait penser à Esther aussi, qui avait dû être formée pour se présenter devant le roi. Elle avait dû être pouponnée, on dira. Elle avait dû prendre toutes sortes de belles senteurs, de beaux maquillages. Et ces hommes, leur traitement, c'était de manger à la table du roi. Qui est-ce qui n'aimerait pas manger à la table du roi? Moi, une fois, j'ai eu l'honneur d'aller dans l'ambassade coréenne. Déjà, c'est un assez haut niveau, c'est pas la reine d'Angleterre, mais c'était déjà... un standing que j'avais pas du tout l'habitude de me trouver dans l'ambassade avec le monsieur qui vient vous servir à table qui et d'avoir tous ces beaux plats, tous ces petits tous ces plats en porcelaine avec plein de bonnes choses. C'était déjà très impressionnant et on n'a pas dit non, On s'est régalé, on a mangé de tout et on s'est vraiment régalé. Et ces quatre jeunes sont mis dans une situation où ils doivent manger les mets du roi. Quelle façon formidable de se régaler. Quand on est esclave, on a envie aussi de manger des bonnes choses, on a envie de faire des belles choses. Mais voilà que ces quatre hommes en ont décidé autrement. Ils ont dit non, on ne va pas se soulier. On ne va pas vraiment se mélanger à tout ce monde qui nous entoure, qui n'est pas le monde de notre Dieu. Alors j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez me dire quelques caractères de Daniel ? Qu'est-ce qui vient à votre esprit ? Quand on parle de Daniel, vous connaissez l'histoire, donc je peux vous poser la question. Donnez quelques caractères de Daniel, quelques caractéristiques. Comment est-ce que son caractère était formé lorsqu'il était un jeune homme ? Il était droit. Pardon ? Il était fidèle à son Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Plus concret, c'était un homme qui était courageux. C'était un homme qui avait une maîtrise de soi, qui savait maîtriser sa vie. C'était un homme qui était intègre, fidèle à son Dieu, qui avait beaucoup de piété, qui était humble. Malgré toute son belle apparence, c'était un homme qui était humble et qui avait une vision spirituelle, effectivement. Donc voilà que Daniel se trouve dans cette situation, il doit réagir, parce que dans son cœur, il sent que ce n'est pas juste. Et on voit au verset 8 et 9 que Daniel résolut de ne pas se souiller. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il supplie. Il supplie le chef des eunuques, celui qui est au-dessus de lui, et de ne pas s'obliger à se souiller. Pour lui, toute la nourriture que les gens lui servaient, c'était une souillure pour lui. Il disait, mais je ne peux pas vivre ma vie de foi avec Dieu et me laisser souiller par toutes ces choses qui viennent de la table du roi. Et donc, on le sait, Daniel a vraiment dit, mais voilà, aide-nous à manger juste des légumes. Donne-nous juste des légumes. Et on sait bien la réaction de ce chef qui dit, mais comment est-ce que je me présenterai devant le roi en sachant que vous ne mangez que des légumes, vous allez dépérir, vous allez être mal. Mais encore là, on sait l'histoire, c'est qu'au bout de 10 jours, ces quatre hommes ont été trouvés beaucoup plus forts, avaient meilleure mine que tous ceux qui s'étaient attablés à la table du roi. Et ça, c'est devenu leur manière de vivre. Ils ont changé de comportement par rapport aux autres et ça a été vraiment une bénédiction. Dans ce courage de défier un petit peu l'ordre du roi, ils se sont trouvés beaux et forts et ils avaient bonne mine. Et on voit que là, ils ont vraiment mis, ça c'est mon premier point, ils ont vraiment mis Dieu au-dessus de tout. Ils n'ont pas eu peur. Ils étaient déjà esclaves, qu'est-ce qu'ils pouvaient perdre ? Ils pouvaient perdre leur vie. Mais ils n'ont pas eu peur. Et de ce fait, ils ont vraiment choisi ce que Dieu leur demandait de faire. Et dans ce contexte qui était difficile, ils ont gagné la victoire. Et de gagner la victoire, ça rend fort. Et ça rend vraiment victorieux. Donc ils ont mis Dieu au-dessus de tout. Et on voit à la fin de 17 à 21 que vraiment Dieu a honoré leur foi. Dieu accorda à ces quatre jeunes hommes de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Mais Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Et on voit vraiment que dans cette obéissance, Dieu leur a accordé vraiment une force supplémentaire. Et toutes ces choses, j'essaye de les appliquer à nos vies aujourd'hui. Et je pensais à vous tous et à moi et à ma famille, quand on est dans des situations de travail, d'école, d'université, comment est-ce qu'on peut lutter contre toutes ces choses qui nous envahissent ? Il y a des bonnes choses qui nous sont présentées, mais qui ne sont pas forcément dans ce que Dieu nous demande d'être et de faire. Donc on voit que devant tous les astrologues, devant tous les hommes sages du pays, Daniel et ses amis sont devenus vraiment ceux qui ont été reconnus avoir la sagesse de Dieu. Et ça c'est formidable parce que d'un côté Dieu ne nous laisse pas. Lorsqu'on choisit d'être contraire à notre vie qui nous entoure, Dieu est là avec nous et il nous donne la victoire. Donc il ne faut pas baisser les bras. Donc après, il y a vraiment une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que Dieu, vraiment, il y a eu une connaissance de Dieu. Daniel connaissait son Dieu. Il était vraiment quelqu'un qui avait une relation permanente avec Dieu. Je ne pense pas que ça aurait été possible de tenir le coup si, de temps en temps, il pensait à Dieu et puis après, il se laissait aller. Je crois que c'était vraiment une chose régulière. Et souvent, je me dis, mais Seigneur, pardonne-moi, parce que est-ce que ma régularité avec toi est suffisante ? Et je ne le pense pas. Je pense que je dois vraiment lutter. Des fois, il y a des semaines qui passent. Et je dis, mais Seigneur, combien de temps j'ai passé avec toi? Et je sais que j'ai besoin de plus d'être avec Dieu. Mais Daniel, il avait cette régularité d'être vraiment avec son Dieu. Et on sait qu'il se levait, il priait 3 fois par jour. Il avait vraiment cette discipline qui lui a permis de gagner des victoires pendant sa vie. Et on passe au chapitre 2 où on voit que tout d'un coup, il y a une statue qui apparaît en vision au roi. Et le roi est effrayé. Il ne sait pas comment interpréter ces choses. Mais voilà encore, on fait amener les sorciers, on fait amener toutes sortes de personnes, d'astrologues, mais personne ne peut révéler au roi ce qu'il a rêvé, parce qu'il demandait la vision, et après il demandait l'interprétation. Et là encore, on voit que Daniel, il a une sagesse qui est vraiment en lui. Il dit, donc le roi dit, mais dites-moi le rêve et son explication. Et on voit que Daniel, avec sa sagesse, il dit dans la parole de Dieu qu'il faut être sage comme une colombe et rusé comme un serpent. Et on voit que Daniel, il avait cette attitude d'être sage, parce qu'il va avec humilité et délicatesse. On voit au verset 2:14, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. On voit qu'il a cette sensibilité d'aller trouver son chef et de lui dire, mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, laisse-moi du temps et moi je vais prier mon Dieu et je vais chercher. Parce que la sentence était grave, il fallait vraiment que tout le monde soit tué parce que personne ne pouvait donner la révélation. Donc Daniel est allé auprès de Dieu et il s'entoure de ses amis, il va trouver ses 3 autres amis et ensemble ils cherchent la face de Dieu. Et là, c'est vrai que le miracle est arrivé parce que Dieu a révélé à Daniel tout ce dont il avait besoin de savoir. Il a révélé le rêve et il a révélé l'interprétation de ce rêve. Et on voit au verset 2, chapitre 2, verset 20 à 23, Daniel fait une magnifique prière. Alors, je ne vais pas parler des visions et je vais juste parler de ces attitudes de Daniel. Et on voit que Daniel, il dit... Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée. Car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Et là encore, on voit combien la fidélité de Dieu est avec ses hommes. Et je pense que pour nous, c'est pareil. Quand on a vraiment de l'obscurité dans notre tête, qu'on ne sait plus où chercher, que faire, et je crois que Dieu nous demande de s'adresser à lui. Et là, on voit vraiment que Daniel reconnaît toute la puissance de Dieu. Il reconnaît toute la sagesse qui vient de Dieu. Et il reconnaît que c'est lui qui répond et qui donne la révélation. Et donc j'aimerais vraiment vous encourager, si vous avez des situations où c'est difficile, où vous n'y voyez pas clair, de vous adresser à Dieu comme Daniel, parce que c'est lui qui donne la révélation et qui donne vraiment la façon de faire et qui aide à aller de l'avant. Et puis on voit au verset 28 que même ce roi qui était incrédule, il est touché par cette révélation-là. Ça a même changé aussi son regard. Et au verset 28, il est dit « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Et on voit que Nebuchadnezzar, il est touché quand même par cette révélation. Il y a quelque chose qui touche son cœur. Mais malheureusement, on voit que par la suite, cette révélation n'a pas été suffisante. Parce que souvent, il est retombé. Souvent, il s'est détourné de ce que Dieu lui demandait de faire. Mais quand même, lorsqu'on est fidèle à Dieu, je crois que ça influence aussi notre société, ça influence ceux avec qui on travaille. Et il y a une révélation qui est donnée. Et on voit que le roi Nebuchadnezzar n'a pas laissé Daniel sans rien. Au contraire, il l'a établi chef. Il a été chef suprême sur tous les sages de Babylone. Et ses compagnons ont vraiment une place dans l'administration. Et ça m'a encouragée. J'ai dit souvent, on dit, voilà, suivre Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Mais non, suivre Dieu, ça permet de gagner une place meilleure, parce qu'on est dans la sécurité de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on peut vraiment garder dans notre cœur. C'est pas de relâcher de se dire, ah ben non, si je commence à suivre Dieu, ça va être davantage difficile. C'est vrai qu'il y a des luttes, hein, on le voit, Daniel et ses compagnons, ils ont eu des luttes. Mais il y avait vraiment une élévation qui était permise par Dieu. Et on voit après tout ça que malheureusement, les choses deviennent un peu plus compliquées. Et il y a toujours beaucoup de jalousie. Et je me disais, même pour nous et pour nos... Je pense souvent à mes enfants, même à Myriam qui est au lycée. Des fois, il y a énormément de jalousie qui sont là de part des autres copines. Et là, elle a fait un temps très très dur, il y a à peu près 3-4 semaines, où elle s'est vraiment laissée tomber par des amis qu'elle croyait amis. Et ils ont dit, ah non, tu ne viens pas avec nous parce que tu es amie avec d'autres que nous, on n'aime pas. Et j'ai dit à Myriam, mais toi, tu es juste. Toi, tu es juste d'avoir des groupes d'amis différents. Et si eux, ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne sont pas tes vrais amis. Donc reste comme tu es et ne change pas. Et je vois que souvent cette jalousie enlève notre joie de faire quelque chose. Parce que les gens, ils nous regardent et ils sont jaloux de nous et ils créent des situations difficiles. Mais on voit ces trois compagnons, il y a eu cette grande statue qui a été élevée pour donner gloire au roi. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'était de plier le genou lorsque les trompettes sonnaient, la musique retentissait. Il fallait simplement se plier le genou devant cette statue. Et là encore, on voit le caractère de ces trois compagnons de Daniel. On voit qu'ils sont vraiment des hommes qui ont une foi incroyable en Dieu. Et ils disent, mais non, nous, si on plie le genou, c'est qu'on renonce à notre Dieu. Et cette femme nous disait, mais c'est vrai que juste plier le genou, c'est pas grand-chose. On peut le faire vite fait, ça prend 30 secondes. Mais non, ils n'ont même pas cédé à la tentation de se dire, on va lasser notre chaussure, on dira qu'on lasse notre chaussure au lieu de plier le genou. Non, ils ont vraiment décrété qu'ils n'allaient pas le faire. Et on sait dans l'histoire que ces trois hommes ont été vraiment vus et ils ont été amenés auprès du roi qui était vraiment furieux. Ils ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne pouvez pas, à la prochaine musique, plier le genou devant cette statue? Et j'ai trouvé très beau ce que ces jeunes ont répondu au roi. Et ils ont dit... j'ai perdu le verset... Mais il y a une chose que je veux dire avant encore, c'est que ces jeunes ont été vraiment en contact avec Dieu constamment. Et il y a ce verset dans Romains 12 qui dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais je suis sûre que ces jeunes, ils ont dû demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit plier le genou? Tu sais nos cœurs, mais est-ce qu'on doit plier le genou? Où ils ont dû se laisser transformer jour après jour par la parole de Dieu. Dans ce passage, c'est vraiment ce mot transformer qui est au centre. Et le but, c'est vraiment de discerner. Et je pense que pour nous, et je sais que j'ai expliqué aussi à Myriam qu'elle doit aussi comprendre que les autres n'aiment pas, parce qu'elle commence à s'éveiller à la foi, il y a une lutte avec. Il y a quelque chose qui... C'est un monde spirituel qui est difficile, mais si on discerne quelle est la volonté de Dieu, alors on peut vraiment avancer. Et c'était amusant parce qu'elle est rentrée hier soir et elle était, de par le fait qu'elle avait été lâchée par les autres filles, elle a été avec deux filles que personne ne voulait. Alors je lui dis, alors comment ça s'est passé avec tes deux autres amies? Elle a dit, ah, qu'est-ce qu'on s'est amusé, on a bien rigolé. Et la fille qui était très timide, on l'a prise avec nous et on est allés ensemble. Et je lui dis, ben bravo, au moins tu as eu la victoire, elle a eu un temps formidable. Et je vois que Dieu a donné une bénédiction là. Mais elle a dû lutter, c'était dur, elle était en pleurs et ça me faisait mal au cœur. Parce que j'ai dit, Myriam, c'est pas quelqu'un de méchant elle est sensible aux autres. Mais elle était vraiment blessée. Et je pense que cette transformation qui s'opère en nous lorsqu'on lève les yeux vers Dieu, ça vaut la peine parce que Dieu nous donne la victoire. Et donc, on voit au chapitre 3, verset 17, la réponse de ces trois hommes. Il dit, si cela doit être... Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de la main au roi. Même devant le roi, ils n'ont pas peur de proclamer que Dieu va les délivrer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut garder dans notre cœur. Même s'il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne veut pas faire parce que Dieu nous le demande, on peut avoir confiance que même si cela devait être, même s'il devait passer, et ils avaient ils savaient que s'ils obéissaient pas, ils allaient dans la fournaise. Hein, j'entends, c'est pas peu de choses. Mais même comme ça, ils ont cette confiance de déclarer, même si ça doit nous arriver, Dieu va nous délivrer. Et donc, c'est une confiance absolue en un Dieu. Et on voit que cette connaissance, cette pensée du monde qu'on doit saisir, ou on doit réagir contre cette pensée du monde, et nous laisser vraiment transformer par la pensée de Dieu, et être vraiment sûr dans nos cœurs que Dieu est avec nous. Quoi qu'il arrive, Dieu, tu es souverain et tu nous délivreras. Et au verset 27 et 30 du chapitre 3, on voit encore que, bon, il y a toute cette magnifique histoire, hein, les hommes sont jetés dans la fournaise et tout d'un coup il y a un quatrième qui apparaît et on voit que le roi est stupéfait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai jeté trois, il y en a quatre, j'y comprends plus rien. Et de plus, ils ne brûlent pas. Ça, c'est encore plus extraordinaire. Ces hommes sont ressortis de la fournaise et ils ne sentaient même pas la fumée. Donc, on peut pas, c'est un mystère, on ne peut pas le comprendre. Hein, nous, on met la main au feu, on se brûle. Mais là, c'était vraiment tout un corps entier dans une fournaise. Et même ceux qui ont ouvert la porte sont tombés tellement que c'était chaud. Et là, on voit vraiment l'intervention de Dieu. Et après cette intervention, encore une fois, le roi élève ses trois amis et il les met encore devant une place élevée dans le royaume. Il y a une récompense dans la foi, il y a une récompense dans la confiance qu'on met en Dieu. Et après, les années passent, le roi Nebuchadnezzar meurt, il y en a d'autres rois qui arrivent, et pour finir, il y a le règne d'Arius. Et Daniel doit vieillir, il a expérimenté plein de choses, mais on voit qu'il a toujours la même attitude envers Dieu, il ne change pas. Et il y a cette main qui est écrite sur le mur. Et le roi Darius devient blême et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Et là encore, la femme de Darius lui dit, ah, mais tu sais, dans ton royaume, il y a une personne qui, du temps de ton père, a interprété des rêves. Donc Daniel avait marqué son histoire. Daniel était, au travers de toute sa vie, a marqué des hommes et des femmes. Et cette femme s'est souvenue de Daniel et ils ont fait appel à Daniel. Et c'est Daniel qui est venu interpréter. Et le roi lui dit, ah, mais je te couvrirai d'or, je te donnerai un beau manteau et tout ça. Mais Daniel lui dit, je ne veux pas tout ça. Daniel travaillait vraiment pour son roi et il a demandé l'interprétation à Dieu et Dieu lui a donné. Et ça, ça a créé encore des jalousies. On voit encore que là, ça s'est élevé. Il y a des hommes qui étaient jaloux de sa position. Et on peut se souvenir, si vous vous souvenez, de Mardoché aussi, quand Amam voulait le tuer tous les Juifs. Et que Amam a dû le promener sur son propre cheval en disant, mais qu'est-ce que le roi ferait à un homme qui a confiance, en qui j'ai confiance? Et Mardoché était sur Amam, pensait que ça serait lui, mais non, lui était l'ennemi de Dieu et il a dû promener Mardoché sur ce cheval parce que lui, il avait eu confiance en Dieu. Et je pense que là encore, c'est une histoire magnifique de confiance et un témoignage de foi que des hommes ont su aller à l'encontre de ce que le roi demandait. Et donc Daniel, au chapitre 6, versets 10 et 12, on voit encore là Daniel dans cette position. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres et la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Et là encore, je me suis dit, mais... Souvent, quand on a peur, on se cache, on va se mettre dans un petit coin et on prie Dieu, Seigneur, viens vite à notre aide. Samson était comme ça, il s'était caché, il avait peur. Mais là, on voit que Daniel, il ouvre les fenêtres et il se met en direction de Jérusalem et il prie trois fois par jour. Il sait que le décret est tombé, il sait que la punition est là, mais encore là, il ne cède pas à l'épreuve de l'ennemi. Et il se met à prier, à supplier. Et il y a toujours ces mots supplier, invoquer, se laisser toucher par la prière, dans la prière par Dieu. Et on connaît le résultat, c'est que ces hommes qui étaient jaloux de lui l'ont pris, l'ont emmené vers le roi. Et Daniel a fini dans la fosse aux lions. Et cette fosse aux lions, c'était quand même quelque chose. Je pense qu'il y a peu de gens qui... Bon, au cirque, on voit des lions qui sont avec un maître de dressage. Et ils ne les mangent pas, c'est sûr. Mais je crois que ces lions-là devaient être beaucoup plus féroces qu'un cirque. Et Daniel risquait vraiment sa peau. Mais là encore, il a eu confiance en Dieu. Il dit, même si toi, ô roi, tu ne peux pas me délivrer, moi je sais que Dieu va me délivrer. Et là encore, ça a été vraiment un miracle de la part de Dieu, parce que Daniel a su sortir la nuit, le matin, il a su sortir de cette fosse et trouver sa place auprès du roi, et le roi était encore touché. Et je me dis, combien de fois ces rois ont vu des miracles, et combien de fois ils ont été incrédules? C'est peut-être la même chose avec Pharaon qui a vu plein de choses, qui savait que c'était Dieu qui intervenait, mais qui a endurci son cœur au point de vraiment voir son fils mourir. Et donc pour nous, c'est vraiment une marche à suivre. Je dirais que Dieu veut vraiment nous encourager. Alors c'est vrai, est-ce qu'on a la foi de Daniel? On est les seuls à pouvoir répondre, mais on a le même Dieu. Ce Dieu qui nous délivre, ce Dieu qui nous garde, ce Dieu qui nous fortifie. Et je crois vraiment qu'on peut prendre de ces histoires un enrichissement dans notre foi et de dire, ben, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à ne pas plier le genou devant les choses que je sais qu'il y a du monde, des choses qui me font mal, des choses qui abîment ma vie, d'essayer de prendre position contre ces choses-là, puis en même temps de compter sur Dieu, de ne pas hésiter, de prier, de chercher, de supplier et de discerner vraiment ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et on voit que Daniel, dans tout ce passage, il a été encouragé par ses trois amis. Ils étaient quatre ensemble. Et je pense que ça a dû beaucoup les fortifier, sachant qu'il y avait d'autres qui vivaient des mêmes situations. Et ensemble, ils ont pu être plus forts parce qu'ils étaient vraiment soudés dans la foi. Et donc, je pensais à nos petits groupes contacts, je pensais à notre église. Je me disais, mais c'est bien parce qu'on n'est pas seul dans son coin. On a d'autres personnes avec qui on peut partager, avec qui on peut prier, avec qui on peut être soudé face à l'adversaire. Et je me réjouis de ce qui se passe parmi les jeunes, parce que je crois vraiment que dans cette année, il y a quelque chose qui a commencé. Grâce un peu à l'anniversaire de Marie, où ils se sont trouvés dans un autre contexte, grâce à ces rencontres au château, où ils ont pu inviter des amis. Ils n'ont pas eu peur d'inviter des amis alors qu'on parlait de Dieu, et ça c'est formidable, il faut continuer, les encourager à le faire. Mais il y a aussi nos petits groupes contacts. On a pu avoir des bons contacts avec des personnes qui sont nos voisins, qui sont nos amis. Mais il faut persévérer. Je crois que dans la difficulté, il ne faut pas baisser les bras, mais il faut vraiment croire que Dieu va nous donner la victoire et que Dieu va vraiment nous aider. Et Rome m'encourageait, en sachant que je partageais ça ce matin, de vraiment vous encourager encore à prier pendant l'été et de demander à Dieu d'ouvrir encore des portes. Alors on continue de prier pour Hanté, on continue de prier pour Conchin, on continue de prier pour le bricolage du jeudi après-midi, mais il y a d'autres groupes qui vont s'ouvrir. Il y a, je pense, Josette qui aimerait bien voir un groupe. Et là, c'est incroyable parce que Dieu nous a permis de rencontrer des gens qui sont amis de Josette depuis plusieurs années. Et on les a rencontrés dans un terrain complètement neutre, c'est-à-dire c'était la fête à Wavrin, on est allé faire le service là-bas, et ça a permis un contact, ça a ouvert des portes. Donc on voit que Dieu prépare des gens dans différentes circonstances. Et le moment venu, Dieu va faire quelque chose. Et il y a Jean-Luc et Annette qui vont aussi ouvrir dans leur maison. Ils sont vraiment prêts dans leur cœur à dire, ben voilà, on se réjouit en septembre d'ouvrir la maison. Et donc, 7 groupes contacts avec 7 personnes, ça fait 50. Et que cette vision nous anime. On n'est pas dans une feuille, on clique. Non, on est dans cette vision que Dieu va nous donner. Il va nous donner beaucoup plus que ce qu'on peut demander, imaginer. Donc, continuez de prier. Même si vous devez vous joindre à un groupe pour fortifier, pour encourager, il faut le faire. Il ne faut pas se décourager. Je sais que des fois c'est dur, on prépare et ben, y a personne ou il y a une personne. Mais ce n'est pas grave. Je crois que Dieu entend nos prières et il va aussi nous répondre. Donc qu'on puisse vraiment s'encourager les uns les autres. Et même pendant cet été, le culte va être un petit peu réduit parce qu'il y a les gens qui partent. Mais restons attentifs les uns avec les autres. J'étais touchée ce matin que Domi, elle m'envoie un petit message en disant, ben voilà, ma maman priait pour moi, ma maman n'est pas là, je ne vais pas venir. Donc c'est des messages où on sent qu'il y a, on est responsable les uns des autres. Et comme Daniel était responsable avec ses trois autres amis, qu'on puisse être responsable les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres. Il y a l'équipe de Lavin qui va partir en Afrique, prier pour eux. Parce que ce n'est pas facile, ils vont être dans un autre contexte culturel, ils vont faire face à des difficultés, à des gens qui ont faim, qui n'ont rien. Le cœur doit être préparé pour toutes ces choses. Priez pour Rob qui est aussi loin. C'est 15 jours où il va rencontrer des situations complètement différentes de ce qu'il a l'habitude de vivre. C'est pas toujours facile, mais on a besoin d'être transformé et renouvelé dans notre intelligence pour comprendre dans quel monde on vit. Priez pour nos jeunes, que cet été leur foi ne défaille pas, mais qu'ils puissent aussi grandir et qu'à la rentrée on puisse refaire un bon week-end, qu'on puisse voir encore d'autres jeunes s'approcher de Dieu. On était très encouragés lundi dernier à Pentecôte de voir pratiquement toute l'église, à part ceux qui n'avaient pas pu être là pour des raisons très valables, d'être tous ensemble, de vivre un temps ensemble, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on continue de serrer les coudes pour qu'on puisse gagner encore des victoires et avoir cette foi en Dieu, comme Daniel qui a su supplier, mais qui a su recevoir ce qui était nécessaire. Et je pensais à ce passage dans Romains qui dit, Romains 16, qui dit « N'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et quand on ouvre nos maisons, quand on partage notre foi avec nos collègues, avec nos amis, c'est vraiment ça qui compte. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et on a encore beaucoup de travail. On aimerait voir tous nos enfants entrer dans l'église, pas forcément dans cette église, mais dans la grande église de Dieu. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail les uns les autres. C'est pas facile, mais ayons foi. Ayons foi que Dieu va susciter des rencontres particulières, même pour nos enfants, que là où ils sont, ils vont trouver des chrétiens qui vont les aider. Et ce matin, en priant aussi, je pensais à ce passage qui dit, mais voilà, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et je crois que ces quatre hommes ont été vraiment tentés. Quand il y a la fournaise devant votre nez, quand il y a la fosse au lion, c'est vraiment des grosses tentations de dire, ben non, je vais céder un petit peu de terrain. Mais non, ils n'ont pas cédé. Et Dieu leur a donné l'issue. Et ils ont été victorieux. Donc que pendant cette semaine, si on est tenté, délivre-nous de la tentation, fait partie de la prière du Père, de Jésus. Délivre-nous de la tentation et que tu nous donnes l'issue, qu'on ne cède pas les genoux, mais qu'on puisse vraiment demeurer avec foi dans ce que Dieu nous demande de faire et d'être. Voilà. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui est immensément grand. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui entend nos faibles prières. Merci parce que c'est ce Dieu qui nous délivre de la tentation et qui nous fait vraiment fort en toi, et nous voulons vraiment lever les yeux vers toi. Seigneur, nous voulons vraiment proclamer que tu es le Dieu qui marche avec nous, et que chaque journée qui va passer, Seigneur, tu vas être avec nous dans nos situations. Et je continue, Seigneur, de prier pour Domi ce matin, que tu la fortifies dans sa foi, que cette foi puisse l'emmener là où tu la veux, auprès de sa maman, Seigneur, qu'elle puisse avoir les paroles qui vont... qu'elle n'ait pas honte de l'Évangile, mais qu'il y ait une puissance qui sorte d'elle lorsqu'elle parle de toi. Et qu'elle puisse vraiment entourer sa maman dans tout ce dont elle a besoin. Seigneur, tu vois aussi les difficultés dans la famille du papa d'Odile avec cette maladie. Seigneur, que Odile soit une source de vie aussi dans sa famille et qu'elle puisse apporter des paroles de réconfort, des paroles de foi. Seigneur, tu vois nos postes de travail, là où c'est difficile, que tu nous aides à être porteurs de vie. Là où tu nous as placés, Seigneur, dans nos travails, dans nos places de travail. Seigneur, je prie pour tous nos jeunes, Seigneur, qui vont être face à un long été, que ton esprit les poursuive et qu'ils puissent vraiment voir ta main agir en eux, dans tout ce qu'ils vont vivre et faire. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Et, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu et en toi nous plaçons notre confiance. Amen.